Bonsoir, bienvenue dans Un Monde Nouveau, le magazine qui libère les esprits et les corps. On a tombé les masques à l'extérieur, les restaurants et les boîtes de nuit ont rouvert, on a de nouveau le droit de se rassembler, de se rapprocher et même, chut, de se frotter. On en a été si longtemps privé. Chers amis auditeurs de France Inter, la fête en cet été 2021 est de retour.
C'est magnifique. Mes amis, nous allons porter un toast aux merveilleux danseurs. Vous y êtes ?
De partie avec Peter Sellers, c'était en 1968, alors certes. Certes, aujourd'hui, il y a les jauges, la quatrième vague qui rôde, le pass sanitaire et les gestes barrières. Le monde d'après est toujours aussi incertain et celui d'avant, par certains égards, bien lointain. Où en sommes-nous de nos existences festives si longtemps empêchées? La fête a-t-elle toujours le même goût, la même fonction libératrice, si on ne peut pas tout à fait perdre le contrôle? On posera la question à notre premier invité ce soir, l'anthropologue spécialiste de la fête, Emmanuel Lallemand. Le contrôle des individus, c'est à la fois un de ses thèmes de prédilection et une inquiétude majeure. Lui qui voit dans les nouvelles technologies une source d'aliénation toujours plus forte, qui menace nos libertés. Le plus politique de nos écrivains de science-fiction, l'auteur à succès Alain Damasio, est notre deuxième invité ce soir sur France Inter. Et il a la rage contre la machine.
France Inter. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
On se libère, on s'ambiance et on se secoue un monde nouveau dans tous ses états sur France Inter.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné. Soudain j'ai trouvé une idée. Pour cacher ma timidité.
C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai. Juste une façon de faire diversion. Avant que ça dégénère.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai. Histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Faire des dégâts. Amène-moi, amène-moi. Je veux, je veux, je veux rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Bada boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat.
Chapeau bas, tcha tcha tcha. Rapproche-toi, tcha tcha tcha. T'es comme moi, tcha tcha tcha. À deux pas, tcha tcha tcha.
Anaïs Thomas, alias Bonnie Banane, et son premier album très remarqué, Sexy Planet, sorti fin 2020 en partenariat avec France Inter. Elle nous fait ici son cha-cha-cha entêtant et torride, parfait pour l'été. Et en ce vendredi soir d'été, vous vous préparez peut-être, chers auditeurs de France Inter, à faire la fête, puisque cet été est synonyme de retour de celle dont on a été si longtemps privé, et puisque la fête, version été 2021, n'a le goût d'aucune autre, on a eu envie d'en savoir plus sur ce qui nous arrive avec une spécialiste. Emmanuelle Lallemand est anthropologue, professeure à l'université Paris 8. Elle étudie la fête et ses transformations dans nos sociétés contemporaines. Bonsoir Emmanuelle Lallemand.
Bonsoir. Bonsoir.
Quel regard l'anthropologue que vous, êtes porte sur cette fête version été 2021 ?
Oui, c'est un regard effectivement très intéressé, non seulement sur le phénomène de la fête en général et sur celui de ce qu'on pourrait appeler le phénomène festif dans cette période, dans cette époque si particulière, qui à la fois a interdit la fête parce qu'elle est effectivement dangereuse et du coup l'a mis beaucoup au centre de l'attention. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit à quel point effectivement, c'est pas tant la fête en soi qui nous intéresse, mais ce qu'elle nous dit de notre société, ce qu'elle nous dit de l'état de nos liens sociaux, peut-être aussi de la menace de les perdre, ces liens sociaux, si bien qu'effectivement cette peur de ne plus pouvoir faire la fête, c'était sans doute aussi une peur, et c'est sans doute encore une peur, une sorte de déréliction du lien social qui est de toute façon à l'horizon dans cette société.
Quand on pense à la fête, on pense évidemment aux boîtes de nuit. Après 16 mois de fermeture, elles ont pu rouvrir ces boîtes de nuit, ces discothèques au début de l'été, avec une jauge diminuée et l'obligation de présenter un pass sanitaire. Est-ce que ce pass sanitaire, il gâche au fond un peu la fête ?
Alors, est-ce le pass sanitaire qui gâche la fête ou est-ce la situation de quatrième vague qui la gâche ? Je dirais plutôt deuxième option. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que la fête est un phénomène qui jaillit, qui est spontané, qui se fait sans codification. Toujours la fête s'est faite avec un dispositif festif, même si elle est synonyme de jubilation, de libération, de quelque chose de quelquefois chaotique, de désordre. Mais il n'empêche que la fête, c'est toujours un dispositif. C'est toujours assez organisé, finalement.
Il y a toujours un cadre.
Il y a un cadre. Hein. De toute façon, il y a un cadre de l'expérience, hein, comme dirait le sociologue Goffman. Donc on est de toute façon dans un phénomène, dans un rassemblement qui a un cadre. Et l'expérience est encadrée, l'expérience de la fête est toujours encadrée. Elle fait l'objet d'une forme de codification, plus ou moins évidemment resserrée, plus ou moins restrictive, hein, selon les époques, selon les situations, je dirais aussi, hein, selon les milieux sociaux, selon les contextes socio-culturels. Mais il ne faut pas croire que la fête est quelque chose qui jaillit de manière spontanée et sans aucune règle, au contraire.
Est-ce qu'on peut dire que cette crise a profondément modifié notre rapport à la fête ?
Alors oui, elle a modifié le rapport à la fête et elle l'a modifié à plusieurs reprises, puisqu'il y a un caractère labile finalement, hein, dans ces 16 mois que nous venons de vivre depuis le premier, le deuxième confinement, les couvre-feux. On voit à quel point à chaque fois la fête est un processus adaptatif. La fête à chaque fois la manière de conserver cette part de notre sphère sociale, qui est cette part un peu festive, elle s'est beaucoup adaptée. On l'a vu pendant le premier confinement, on était presque dans un enchantement des dispositifs techniques qui permettaient de faire la fête tout en étant à distance. On voit à quel point ces dispositifs sont beaucoup retombés quand même
oui,
dans le deuxième confinement.
Vous faites allusion par exemple aux apéros sur
voilà,
Zoom, c'est ça ?
Absolument, les apéros Skype, les apéros Zoom, toutes ces fêtes qui se sont organisées avec ces technologies de la proximité dans la distance, qui nous servaient la plupart du temps à travailler d'ailleurs, et qui nous servait aussi à faire la fête. Et on voit à quel point, depuis quand même le deuxième confinement, tout cela a été largement désenchanté et presque au contraire, on va dire, synonyme de justement ce que l'on ne peut plus faire et ce que l'on ne veut plus faire. Parce que la fête, elle est considérée sans doute comme quelque chose de non essentiel, hein, dans cette catégorie des choses essentielles et non essentielles. En revanche, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elle est absolument irremplaçable.
Alors à quoi elle sert justement la fête ? Est-ce que c'est seulement un exutoire, un besoin bien humain au fond de lâcher prise, de se détendre, de se libérer, ou est-ce que c'est plus que ça ?
Alors c'est tout à la fois, c'est-à-dire que la fête c'est effectivement une rupture par rapport, on va dire, à un quotidien souvent considéré comme morose, routinier. La fête vient produire une forme de rupture. Mmh. Elle vient effectivement produire une forme d'effervescence et la fête, sa définition, c'est comme une célébration, une effervescence collective qui a été beaucoup étudiée. Il ne faut pas croire pour autant que c'est uniquement de la rupture avec de l'ordre social. Au contraire, on dit souvent que la fête, c'est pas seulement du renversement, c'est aussi du renforcement. C'est-à-dire qu'on vient seulement, on vient aussi redire à quel point justement ce lien social est essentiel. On vient en fait le poursuivre selon d'autres modalités que celles du quotidien. Donc, en cela, effectivement, elle fait quand même partie des activités, pourrait-on dire, essentielle oui. au maintien de l'ordre social et au maintien de la société en général. Et on le voit à quel point, de toute façon, tous les gouvernements organisent aussi des fêtes. Hein. Il y a des fêtes très officielles qui sont organisées, qui sont très institutionnalisées. C'était une des critiques, d'ailleurs, avant la pandémie, qu'on portait au phénomène festif en se disant « Mais finalement, toutes ces fêtes sont extrêmement policées, extrêmement institutionnelles, extrêmement légales. Donc, où est la vraie fête si, finalement, il n'y a que du phénomène festif ?» C'est une question qu'on se pose de manière récurrente quand on est anthropologue. Et c'est vrai que là, la pandémie, elle a remis un peu ce caractère, on va dire, effervescent, essentiel à la fête, voire transgressif, clandestin, dont on a tant parlé.
Alors justement, avec ce confinement, la fête a pris des allures de transgression avec tout un champ lexical qui est apparu. Je vous propose d'écouter un extrait du journal de France Culture du 4 janvier dernier.
Les restrictions sanitaires ont entraîné une multiplication des fêtes clandestines en France lors du réveillon du Nouvel An. Il y a eu notamment cette gigantesque rêve partie à Lieuron en Ille-et-Vilaine avec environ 2500 teufeurs. L'organisateur présumé, un jeune homme de 22 ans, a été mis en examen et écroué aujourd'hui. Il est notamment poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui.
Voilà, fête clandestine, sauvage, illégale, secrète, mise en danger de la vie d'autrui. Il y a tout ce nouveau vocabulaire, ce nouvel imaginaire qui est apparu dans la fête.
Oui, alors qui existait sans doute déjà, mais qui a été évidemment très accentué par ces interdits. En fait, effectivement, on voit à quel point la fête a été quelque part criminalisée. Et à ce titre-là, la répression qui a eu lieu auprès de ces fêtes-là est à l'image, effectivement, de la criminalisation de la fête actuellement. On voit effectivement que les pouvoirs politiques ont toujours, de toute façon, organisé à la fois, on va dire, des fêtes qu'ils considéraient comme légitimes et marginalisé des fêtes qu'ils considéraient comme illégitimes. Donc c'est de toute façon quelque chose qui était déjà présent et qui est toujours présent, mais qui là, au décours de cette pandémie, a été mis un peu au centre des discours, et on voit effectivement l'usage politique qui en a été fait, et aussi un usage sociologique, parce que finalement, en fonction de qui on est dans la société, on a eu aussi un usage un peu de cette fête, on a dû se positionner par rapport aux fêtes, soit pour les condamner, soit au contraire, pour les faire perdurer malgré tout, et donc c'est ce positionnement où on est effectivement tous sommés d'avoir un avis sur la fête, et finalement, peut-être le risque, la menace, c'est d'avoir des positions finalement très polarisées autour de la fête entre ceux qui considèrent qu'elle est de toute façon tellement dangereuse qu'il ne faut pas faire la fête et d'autres qui disent au contraire, puisqu'elle est transgressible, il faut faire la fête.
Et on l'a bien vu pendant toute cette période de confinement et de reconfinement. Et le corps dans tout ça, Emmanuel Lallemand, est-ce que nos corps font la fête en 2021 comme en 2019.
Alors, les corps font la fête, effectivement, et notamment d'ailleurs l'été, qui est aussi un peu la fête des corps. On est quand même dans une saison particulière, qui est celle des loisirs festifs, qui est celle du corps dansé, du corps qui se montre, du corps qui, effectivement, se libère, et de l'esprit aussi qui se libère, pour faire référence à votre émission. Donc oui, le corps a quand même été profondément modifié. Je dirais pas forcément le corps individuel, mais ce corps collectif qu'est la fête. C'est-à-dire qu'on voit à quel point quand on fait fête, on est aussi un corps collectif. D'où la production, effectivement, de cette émotion collective qui est issue du fait d'être dans ce corps à corps, dans ce qu'on appelle le contact festif. Là aussi, il y a tout un registre, tout un lexique pour dire quel est le corps pendant la fête. Un corps qui soit se montre, soit au contraire s'expose sous de nouveaux atours avec cette idée du maquillage, du déguisement. Donc on voit à quel point le corps a toujours été central dans le phénomène festif. On dit d'ailleurs toujours que la fête, c'est finalement une théâtralisation du quotidien. Il y a cette idée, effectivement, de se montrer sous un nouveau jour, même si c'est la nuit. Et ce corps de la nuit n'est jamais effectivement le même. D'autant plus quand on est dans cette saison de l'été qui est quand même le grand moment de la fête s'il en est et un grand moment très cadré de la fête. Elle est toujours quand même assez contrôlée et la fête est toujours un contrôle du corps.
Il y a toujours une grande incertitude. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. On ne sait pas si certains lieux vont fermer ou pas, si de nouvelles restrictions vont nous être imposées. Est-ce que cette incertitude rend encore plus impérieux, encore plus urgent le besoin de faire la fête cet été?
Alors ça peut rendre pour certaines personnes ce besoin de la fête encore plus essentiel, encore plus impérieux, encore plus urgent, on va dire encore plus nécessaire quand on est dans une période à la fois effectivement d'incertitude et dans ce moment de suspension où on ne sait pas ce qui va se produire. Mais je dirais que pour d'autres personnes peuvent être au contraire dans une forme de prudence. Hein. C'est pas parce qu'on parle de phénomène festif qu'on porte forcément vers le chaos, vers le débordement. On voit aussi beaucoup de pratiques émerger qui sont des pratiques finalement assez prudentes. prudente, des pratiques de réserve par rapport à cela, des manières d'organiser en fait hein, ces rapports sociaux pour à la fois maintenir, je dirais, quelques rituels festifs plus que de la fête. C'est-à-dire des choses qui quand même, des moments, des espaces-temps qu'on s'organise pour justement être quand même dans cette scansion du temps qui est absolument indispensable finalement à l'ordre social et à notre, on va dire, à notre équilibre social et psychologique, je dirais. Mais finalement avec une forme comme ça d'adaptation à des petites formes festives où on vient maintenir le rite, la célébration, peut-être moins dans le festif, le débordement.
La fête, c'est aussi un moyen de marquer les étapes importantes de la vie, les anniversaires, les mariages, les fins de cycle. Je pense en particulier aux élèves de terminale qui n'ont pas pu fêter avec leurs camarades la fin du lycée, l'obtention du bac, ou alors un départ à la retraite. On n'a pas pu célébrer ça sur le moment avec ses collègues. Ces fêtes-là qui n'ont pas pu avoir lieu, elles sont perdues à jamais. Ça laissera des traces, ça ?
Alors, ça me fait penser aussi au fait que quand on parle de fête, l'idée c'est que quand même, c'est du biologique, quelquefois de la nature, qu'on va traduire d'une manière sociale. La fête, vous parliez des anniversaires, vous parliez de ces grands moments de la vie, le fait de devenir un étudiant et de ne plus être un lycéen, on voit à quel point on est quand même presque dans des rituels d'initiation, on passe d'un état à un autre, on vieillit, on marque les anniversaires, le temps qui passe, donc on voit à quel point la fête c'est une manière hein, de transcrire du biologique, du naturel, dans du culturel, dans du social. Donc on voit à quel point c'est quand même essentiel. Alors ces fêtes-là sont sans doute peut-être perdues pour certaines d'entre elles, mais on fait toujours la fête en souvenir d'une autre et en projection d'une autre fête. Une fête, c'est toujours une promesse, c'est toujours un horizon de pouvoir la fête, la faire plus tard, de pouvoir la faire avec effectivement comme référence celle qu'on a sans doute pas pu faire et du coup on va pouvoir les multiplier un jour je pense, mais c'est cette idée aussi d'être dans le souvenir, de marquer le temps et pouvoir marquer, c'est cyclique la fête.
Alors pour nous adultes c'est peut-être plus facile de se dire bon on la fera plus tard, pour ces jeunes là qui n'ont pas pu fêter le bac, qui ont été enfermés pendant 16 mois, ça a été particulièrement difficile, on a tendance à penser que l'absence de fête a été le plus dur pour eux, est-ce que c'est bien le cas ?
C'est vrai que la socialisation est importante dans la fête, d'où l'idée que les fêtes sont des moments importants pour les jeunes. Parce que c'est là effectivement où on se construit en dehors de ces socialisations primaires que sont la famille. C'est là où justement on va pouvoir se socialiser en dehors de cela, auprès de ses amis, auprès d'autres sphères, on va dire, sociales. Donc c'est évidemment extrêmement important pour la jeunesse. Mais je ne pense pas qu'il faille réduire ce phénomène festif à la jeunesse et dire que ça a manqué à la jeunesse et du coup c'est les jeunes qui font la fête actuellement. Non, je pense que c'est quelque chose qui traverse à la fois les générations, qui traverse les milieux sociaux, même si à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de voir la variété du phénomène festif. C'est ça qui intéresse les anthropologues, c'est la variété du phénomène festif et le besoin universel de fête.
On termine avec la question rituelle de cette émission, Emmanuel Lallon. Quel est selon vous l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Alors, est-ce que le futur est désirable avec les objets alors que nous sommes dans un débordement d'objets ? Je pense que j'ai posé la question autour de moi. On m'a plutôt dit qu'il manquait d'idées et d'actions. Et je dirais que si finalement il manquait un objet pour le futur, ce serait un objet assez magique, qui serait peut-être l'objet magique de l'égalité entre les hommes et les femmes notamment, l'objet qui permettrait effectivement cette meilleure vie en société. C'est un peu impensif de le dire, mais c'est peut-être ce vers quoi nous voulons tendre.
Mais ça fait toujours du bien de l'entendre, et des idées et des actions. On va en parler longuement dans la deuxième partie de l'émission avec l'auteur de science-fiction Alain Damasio qui sera notre invité. Merci beaucoup Emmanuel Lallon.
Merci, au revoir.
Ladies and gentlemen, we just landed in Geneva. Yeah, that's in Switzerland. We're on a yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out, too. Call me when you get lost.
I'ma travel the globe. You keep the block hot. Driver, open the door for me. My hair hurt. Find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us. Yeah. The luggage is piling, I need a clothes to wear. So many stinky sit in my wallet, look like a folding chair. The Cartier so light on my body, thought I floated here. We boated here, it's Tunchi and Tyler, but call me Baudelaire. Yeah, out in Switzerland, travel with my bitch. Yeah, we kissing dog, I love when she let me rub it like Michelin. 100 grand to sleep on the bird, the wings are whistling like...
Man, they ain't listening. Cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunting on these niggas, make them sick to their stomach, man. Y'all don't understand. Fish so fresh that you could taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we aim. Bada, sun, sun, sun. Treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah.
You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram.
Excuse me, pardon me. The wind, it blows so hard to me, like Mother Nature arguing about some baby father beep. And I'm stuck in the middle of the sandwich like slaughter me. Got my middle fingers to the cameras, that's recording me from y'all to me. Brrr. Stop calling me unless you're ordering. I'm on the beach, I got my feet out, and I stay on my feet. The corner beat, I'm on a deep route. Just throw the ball at me, thought all this lean would have me see now. I guess they see now, that's touchdown. Catch a beat down like I catch touchdowns. I fuck round and slow the beat down and take the drums out. The speed of my blow, I'm so greedy, I'ma eat my own flow. And now I'm in need of a flow, I'ma eat me a rap, but I might as well eat me a hoe.
Oh.
I'm hot as hell when the weather is freezing and cold. As a devil, a demon, and ghost, I'ma get even and even get even some more. It's too late to even get low. Bye, wolf gang, that's what I need you to know. Moonlight, Weezy the goat. The wind beneath my wings, Desert Eagle underneath my coat.
Yeah.
Moolah, bitch.
Hard we.
Over here admiring the view of the mountains from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man.
Hot Wind Blows, le sixième titre du sixième album de Tyler, the Creator, Call Me If You Get Lost.
Un monde nouveau. Sonia Khironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Sophie Comte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Chute Magazine, le média qui interroge notre rapport aux technologies. Et Hervé Poirier, bonjour à vous. Vous êtes journaliste à Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. On commence avec vous, Sophie Comte. Et ce soir, vous nous parlez, Sophie, de Digital Detox. L'été serait le moment propice à la déconnexion, comme l'a bien compris le Sarcus Festival, premier festival sans smartphone.
Fini les téléphones portables au Sarcus Festival qui a lieu du 27 au 29 août prochain dans la vallée de la Loire. Alors d'autres avaient déjà expérimenté le concert ou le spectacle sans téléphone comme Florence Foresti en 2018. Mais jamais un festival sur plusieurs jours avait osé une telle initiative.
Et alors concrètement, comment ça marche ?
Eh bien, généralement, la solution qui est choisie, c'est une pochette qui s'appelle Yonder, donc une pochette individuelle que vous pouvez garder sur vous, qui se verrouille automatiquement lorsque vous glissez votre téléphone dedans. Le principe étant que les personnes n'aiment pas trop déposer leur téléphone dans une consigne. Donc voilà, ils ont leur téléphone sur eux et ils peuvent venir quand même déverrouiller à tout moment dans un endroit précis du festival ou du concert.
C'est encore difficile de lâcher l'objet et ça montre bien cet enjeu de société qui se dessine de plus en plus, l'hyperconnexion et la dépendance au numérique.
Les derniers chiffres sont édifiants. D'après une étude de Recommerce, 21% des Françaises et Français se disent incapables de se passer de leur téléphone plus d'un jour. Chez les jeunes, eh bien évidemment, c'est encore plus poussé. 40% des moins de 18 ans confessent qu'ils ne peuvent se séparer de leur téléphone plus de 5 minutes. Et c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer une information importante qui nous fait consulter notre téléphone à tout moment et peu importe le lieu, même pendant nos vacances en fait.
Et pour tenter d'échapper à cette dépendance, on voit de plus en plus ce type de solution estampillée Digital Detox.
Oui, en bon français, disons désintoxication numérique. C'est en effet toute une culture du bien-être numérique qui émerge aujourd'hui et qui incite à la pause, voire à la cure, au jeûne numérique. Un effet de mode, hein, et puis même tout un business qui émerge avec des hôtels de luxe, des maisons d'hôtes, des agences de voyage et qui proposent aux internautes surmener des séjours sans connexion. En entreprise, il existe depuis 2017 un droit à la déconnexion, donc c'est le même combat et on y retrouve aussi des ateliers Digital Detox. Et j'ai même trouvé une crème Digital Detox anti-lumière bleue. C'est dire si l'on sait surfer sur la vague, même sans connexion.
Et est-ce que ces solutions sont suffisantes, Sophie ?
eh bien, elles ont au moins le mérite de pointer notre besoin de faire des pauses. C'est cette idée, en fait, de déconnexion volontaire. Alors, le sociologue Francis Jauré-Guibéry présente la connexion comme l'immédiateté, la facilité, la distraction, alors que la déconnexion, c'est finalement retrouver un espace à soi, se retrouver face à soi-même et à ceux qui nous entourent. Et pour autant, c'est pas simple hein, de trouver ces moments de déconnexion. Le sociologue pointe les difficultés qu'on peut éprouver à se déconnecter, même quand on voyage, parce qu'il est de plus en plus difficile tout simplement de trouver des endroits où il n'y a pas de connexion.
Et alors, comment trouver l'équilibre ?
Alors déjà, peut-être qu'on peut commencer par relativiser, arrêter de culpabiliser. On n'est pas forcément accro ou addict. Ce sont avant tout de mauvaises habitudes, mais des mauvaises habitudes dont il est difficile de se défaire et qu'il est d'autant plus difficile de se défaire qu'elles ne viennent pas que de nous, qu'elles viennent surtout en fait des plateformes, en particulier des réseaux sociaux, dont le modèle économique repose sur cette idée d'économie de l'attention. Donc le principe est de nous garder le plus longtemps possible sur leur plateforme. Finalement, ce qui est important, je trouve, c'est de comprendre comment tout cela fonctionne, comment fonctionnent ces plateformes. C'est un enjeu d'éducation au numérique qui commence même très jeune maintenant. Alors espérons qu'à force d'en parler, eh bien les plateformes évoluent, elles, vers plus de responsabilités. Et puis nous, peut-être vers d'autres habitudes.
Merci beaucoup Sophie. Je rappelle que le dernier numéro de Chute Magazine, avec ou sans contact, est disponible actuellement en kiosque et en librairie. Hervé Poirier, vous êtes donc journaliste à Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique, et vous nous parlez ce soir d'une révolution à venir dans nos oreilles, les bulles de son. Qu'est-ce que c'est les bulles de son ?
C'est un nouvel objet physique qui débarque, quelque chose de à la fois très très simple, mais aussi très difficile à imaginer. Lorsque la radio de nos auditeurs diffuse le son de notre voix, donc ça remplit évidemment toute la pièce. Mmh. Eh bien, imaginez que France Inter ne résonne que dans une petite bulle autour des oreilles de notre auditeur. En dehors de cette bulle-là, le son n'est pas audible. À l'intérieur de cette bulle, on nous entend parfaitement. Étonnant, non ? Acoustic Arts, une start-up française, annonce en septembre prochain lancer la première enceinte à bulle de son. Muriel Valin, une journaliste à Epsilon spécialisée dans ces domaines, a testé ces enceintes cet été. Mmh. Elle a trouvé ça vraiment impressionnant. En parallèle, Noveto, une entreprise israélienne, annonce lancer d'autres enceintes en décembre. Des dizaines de labos travaillent sur le sujet. Il y a une multiplication de publications scientifiques. Bref, les bulles de son débarquent.
Et quand ça marche ? Parce que c'est vrai que ça paraît quand même étonnant.
C'est étonnant, ouais, c'est étonnant. Parce que normalement, un son, ça se propage partout. Eh bien, ça dépend de la fréquence, en fait. Les ultrasons, c'est des sons qu'on n'entend pas tellement la fréquence, au-dessus de 20 000 Hz est élevée. Mmh. Eh bien, c'est bien connu depuis des décennies que les ultrasons peuvent être focalisés. On peut faire des faisceaux d'ultrasons. Ça sert par exemple en médecine pour attaquer les calculs rénaux, par exemple. Donc on peut imaginer que tel le laser d'une lumière... Une ampoule, ça diffuse la lumière partout. Un laser, ça reste cantonné à un faisceau. Les faisceaux d'ultrasons sont assez faciles à manipuler. Et dès les années 60, ils avaient imaginé utiliser ces faisceaux pour faire passer à l'intérieur de ces ultrasons du son audible. Pendant des décennies, ils n'y ont pas réussi. Il a fallu attendre l'avènement de microprocesseurs spécialisés dans le traitement du son pour que, ces dernières années, ils arrivent au sein d'un faisceau d'ultrasons à moduler les ultrasons pour faire apparaître des ondes audibles et reproduire le son de notre voix à l'intérieur de ce faisceau, avec un son qui se dégrade au loin, ouais, qui n'est pas encore perspective tout près de l'enceinte. Bref, ce faisceau crée une bulle et si on rentre dedans, on entend France Inter. Si on en sort, on n'entend plus rien.
Et cette innovation, quel type d'application est-ce qu'elle va retrouver ?
Eh bien, j'imagine qu'il y en a plein qui ne sont pas encore imaginés. Ça a déjà été testé dans les musées. C'est imaginé aussi dans les mairies ou les hôpitaux, pour que les conversations puissent avoir un caractère assez privé. Une des applications commerciales les plus importantes, c'est dans les voitures, pour que le conducteur seul ait les instructions GPS et que ça ne perturbe pas ceux qui dorment derrière. Mmh. Mais évidemment, on imagine ça dans le canapé. Il y en a un qui veut regarder le film en VO, l'autre en VF. Où il y en a un qui veut se faire réveiller par France Inter le matin et l'autre qui veut continuer à dormir sur le vélo pour ne plus avoir ses casques dangereux. Bref, je ne sais pas si on peut appeler ça une révolution. En tout cas, c'est une sacrée évolution de la maîtrise de l'acoustique avec quelque chose qui est peut-être encore plus compliqué que les bulles de son mais qui est aussi incroyablement politique, les bulles de silence, c'est-à-dire à l'inverse. Oui. Dans le brouhaha du monde moderne, réussir à sculpter le son pour que, quand on met sa tête dans cette bulle, on n'entend plus rien.
Et on retrouve ce droit à la déconnexion dont on parlait avec Sophie Comte juste avant. Merci beaucoup Hervé Poirier, journaliste donc au magazine d'actualité scientifique Epsilon que vous retrouvez en kiosque, la une du dernier numéro du mois d'août, un voyage à l'intérieur des trous noirs. Et merci à vous donc Sophie Comte, directrice de la rédaction de Chute, le magazine à l'écoute du numérique, en kiosque et en librairie, qui se penche lui dans son dernier numéro sur un monde avec ou sans contact. Porte, lui, un regard critique, radical sur ces nouvelles technologies, synonyme pour lui d'aliénation moderne et d'une société de l'hyper-contrôle. Écrivain à succès, il est sans doute le plus politique de nos auteurs de science-fiction. Bonsoir Alain Damasio.
Bonsoir.
On parlait dans la première partie de cette émission avec l'anthropologue Emmanuel Lallemand de l'importance et du rôle de la fête. Vous qui pouvez rester isolé pendant des mois pour écrire, est-ce que ça vous a manqué de faire la fête ?
Ah bah ça m'a manqué comme beaucoup de gens je pense, et j'aimais bien ce qu'elle disait parce que il y avait l'aspect centré sur le corps en disant oui le corps il a besoin de se libérer, il a une énergie qui a besoin de fusionner avec d'autres corps, qui a besoin de former un corps collectif pour lâcher les choses, pour un peu exprimer tout ce qui a été contenu pendant tellement de mois quoi. Voilà, donc le fait qu'on a été sur une période d'immobilité, une période de compactage, une période où on était serré à l'intérieur de nos logements. Et le corps, du coup, je pense qu'il a beaucoup enduré. En fait, il a beaucoup subi. Et du coup, je pense que cette libération, elle est encore plus fondamentale, vraiment en ce moment. Ouais.
On lâche les corps et les esprits ce soir sur France Inter avec Alain Damasio. On se retrouve tout de suite après un petit détour sur la planète Mars.
Plus de lune, juste une terre dans le ciel face au désert. Station martienne, balnéaire.
Mars balnéaire de Fablin Flavien Berger, tiré de l'EP éponyme sorti en 2014. Un morceau aux sonorités électro et simili tibétaine qui nous fait voyager sur la planète des possibles. Entre esquisse d'un futur désirable et critique radicale des sociétés modernes, sa planète à lui, c'est celle de la science-fiction. L'imaginaire au service du présent pour mieux le décrypter, le dénoncer et rêver à un monde nouveau. L'écrivain Alain Damasio est notre invité ce soir. Dans vos romans, Alain Damasio, qui totalise je crois plus d'1 200 000 exemplaires vendus, vous annoncez depuis une vingtaine d'années l'avènement d'une société de l'hyper-contrôle mise sous cloche par une surveillance généralisée avec l'aide des nouvelles technologies et de notre consentement, aliénés que nous sommes. Vous diriez que la pandémie a confirmé vos pires craintes ?
Ah ouais, la pandémie, ça a été une espèce d'acmé dans cette courbe du contrôle, et du contrôle de plus en plus effectivement exhaustif, intensif qu'on subit et qu'on appelle même, je trouve, de nos voeux, parce qu'il y a une demande sociale de contrôle qui est relativement forte et qui fait qu'il peut s'installer assez tranquillement, assez calmement dans nos vies. Et la pandémie, en activant vraiment une peur immunitaire extrêmement forte, extrêmement soutenue, elle a renforcé des techniques de contrôle et les a étendues encore, elle les a approfondies. Ce qui fait que là, on a touché un point. J'espère qu'on va redescendre du haut de cette courbe, ce qui est pas évident, ce qui est pas sûr. Mais là, j'étais hier, par exemple, à un festival, au Festival du Bout du Monde, à Crozon, et rien que d'entrer dans le festival a été, je me suis dit, mais c'est pas le passage du mur de Berlin, on va pas exagérer, mais je me dis jusqu'où on peut aller, quoi, parce que il fallait que j'envoie le passeport de ma fille pour qu'elle soit inscrite, ensuite que je valide par ma propre carte d'identité que c'était bien ma fille, puis ensuite que je mette évidemment le masque dans le couloir, puis ensuite qu'on contrôle mon sac, que j'ai pas de gourde, que je sorte le pass sanitaire, que je sorte en même temps le billet, puis la carte d'identité une deuxième fois, etc. Enfin, quand on est rentré dans le festival, on s'est dit, waouh! Voilà, et c'est des choses qui deviennent extrêmement quotidiennes. Rien que maintenant arriver sur un quai de gare et devoir passer par des portiques, devoir scanner son billet, toutes ces choses-là habituent le corps à passer constamment des sas comme ça. Moi, je trouve que c'est assez marquant, un monde de sas. On passe d'une boîte à l'autre, et pour passer d'une boîte à l'autre, on est obligé de sortir sa pièce d'identité, de certifier son identité en permanence, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie réelle. Et ça, je trouve qu'il y a une réduction des degrés de liberté qui a été assez fascinante sur les 20 ou 30 dernières années. Et je suis toujours vraiment étonné de la façon dont le corps humain arrive à se plier à ça, la docilité qu'on a, la facilité à se courber. On prend des habitudes, on plie nos habitudes à ces types de contrôles. C'est comme le masque. Au début, jamais j'aurais pensé que les gens supporteraient de le porter aussi longtemps, si souvent, et qu'une telle régularité. Ben si, on s'y plie, on devient démasqué et on arrive à supporter ça, ce qui est presque une bonne nouvelle sur la capacité d'adaptation, mais qui est une très mauvaise nouvelle sur la capacité de docilité aussi, je trouve.
Donc il y a quand même aussi des bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez décelé des signes positifs dans cette
crise ? Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que ce Covid, comme tout événement marquant, fort, déstabilisant, il ouvre toujours des possibles, il ouvre des fenêtres dans certains murs. Je trouve que ça a rendu beaucoup plus attirant les zones rurales, le retour à la terre, la liberté qu'on trouve dans des espaces qui sont beaucoup moins urbanisés, parce que l'urbain, pour moi, je continue à le vivre un peu comme une prison à ciel ouvert, hein, surtout Paris, hein, qui est vraiment une ville extraordinairement fliquée, je trouve. C'est impressionnant la densité de policiers au mètre carré quand tu reviens à Paris. Donc du coup, je trouve que cet appel vers le dehors, cet appel vers la nature, justement vers le vivant, vers les zones rurales, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens mesurent à quel point, effectivement, ça permet de dilater justement les possibilités du corps, de renouer avec le vivant, de renouer avec les espèces animales, végétales, de se faire plaisir, de faire la fête sans avoir justement la police sur le dos. Donc il y a quelque chose de... Ouais, je trouve que ça y est, ce désir-là a été activé, paradoxalement. Ouais.
Vous êtes proche du philosophe naturaliste Baptiste Morisot, qui pense la crise écologique avant tout comme une crise de notre sensibilité au vivant, de l'appauvrissement de nos relations avec lui. Il nous invite à retisser des liens avec la nature et les autres espèces, mais lui, contrairement à vous, ne rejette pas les apports des nouvelles technologies, on l'écoute.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que j'essaie de défendre d'autres rapports au vivant sans être anti-moderne. Parce que j'hérite d'une tradition, justement, dans laquelle souvent l'intérêt pour la nature passe par une anti-modernité, une critique de la vie industrielle, la vie urbaine. Moi, j'essaie plutôt d'imaginer des alliages entre les deux. Alors, bien évidemment, il y a des effets pervers et comiques de notre aliénation à ces technologies. Mais par exemple, un smartphone, c'est aussi un endroit parfait pour accueillir des applications, pour apprendre à reconnaître des vivants qui nous échappent. Et ça, c'est un usage qui peut faire sens.
Vous avez toujours refusé, vous Alain Damasio, de posséder un smartphone. Votre dernier ouvrage, Scarlett et Novak, est une dénonciation vigoureuse de notre dépendance à cet objet. Est-ce que, pour reprendre les termes de Baptiste Morisot, vous êtes un anti-moderne ?
Bah non, puis de toute façon, c'est absolument impossible d'être un anti-moderne et même d'être un anti-technologie, parce que la technologie nous a fait homme, nous a fait sapiens, quoi. Donc c'est grâce à cette articulation et ces inventions technologiques qu'on est devenu ce qu'on est. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut retirer de nous, sinon on retire une part de notre humanité. Simplement, il faut se rendre compte que ces technologies, effectivement, ont été développées dans une approche auto-addictive extraordinairement puissante. Et ça, on en a parlé, elle en parlait très bien, Sophie Comte, là, dans le reportage que vous avez passé. C'est-à-dire que les plateformes ont maximisé la dépendance qu'on peut avoir à leurs applications et utiliser tous les biais cognitifs que l'esprit humain recèle pour nous pousser et nous piéger dans cette addiction. Donc c'est un travail de dealer, c'est un travail de fournisseur de drogue, en fait, je trouve, ce qu'ils ont fait. Et on est en partie des junkies, quoi. Après, la technologie, tu peux l'utiliser d'une façon magnifiquement émancipatrice. Là, Baptiste, il parle notamment de ces applications qui sont géniales, qui permettent que tu scannes une feuille comme ça et elle te dit l'arbre. Et constamment, quand tu es en pleine nature, il y a plein de moments où tu reconnais pas, tu sais reconnaître quelques arbres. Mais si tu veux continuer à apprendre, continuer à découvrir, bah, cette appli, évidemment, elle est fabuleuse. Puis t'as plein d'applis en création artistique, appli sonore, par exemple, qui sont fabuleuses. Donc la technologie a un vrai pouvoir aussi de libération. Simplement, celles qu'on utilise aujourd'hui, celles qui sont notre quotidien, celles qu'on nous met dans les mains en permanence, elles sont effectivement auto-aliénantes. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va nous imposer de les utiliser. C'est nous qui nous approchons d'elles, les empoignons. Et puis très rapidement, on se rend compte qu'on est pris dans ces boucles rétroactives d'addiction. Et on l'a vu là sur les gamins, hein, quand même, combien, 40% qui peuvent pas se passer de leur smartphone plus de 5 minutes. Donc on voit que là, on est dans des méthodes. Enfin, franchement, moi j'avais travaillé pour la Fédération Addiction, notamment. Donc la Fédération Addiction bosse sur les addictions au jeu, au sexe, au cyber, à tout quoi, à l'alcool, etc., à la drogue. Moi, je pense qu'on peut rentrer le smartphone dans la longue liste des addictions actuelles, quoi. Et peut-être la plus prégnante, la plus quotidienne. Ouais.
La science-fiction, pour vous, c'est un moyen d'échapper au réel ou d'essayer de le modifier?
Moi, c'est vraiment un moyen d'essayer de le modifier. Mmh. C'est très clair. Pour moi, la science-fiction, évidemment, elle parle du présent, elle s'appuie sur le présent, elle en intensifie les potentialités. Et elle permet de parler du présent avec ce miroir légèrement décalé du futur. C'est-à-dire que quand tu décales la société à 20 ans, 30 ans, 50 ans, moi, je l'ai fait à 60 ans sur la zone du dehors, je l'ai fait sur mon dernier roman à 20 ans. Tu permets d'avoir ce léger effet qui fait que tu peins pas le visible, tu rends visible un certain nombre de choses qui sont tellement collées à nous, tellement justement immédiates, tellement habituelles, tellement familières qu'on n'arrive plus à les voir. Et là, décaler tout simplement, tu vois, de dire par exemple, tiens, ce sera plus un smartphone, ce sera une bague, donc bijou connecté qui va nous servir à certifier notre identité dans 20 ans. Ça crée un effet de miroir par rapport à ce qu'on vit avec le smartphone, à la dépendance au smartphone et tout ça. Donc je trouve que c'est un outil de transformation du réel qui est assez... Moi je dis aussi parfois c'est un outil qui permet d'offrir du possible au réel. C'est-à-dire que le réel, il est tout le temps collé à nous, il est tout le temps là à nous paraître complètement naturel et on essaie de nous le vendre comme étant le réel absolument nécessaire. En réalité, c'est qu'un des possibles et la science-fiction va montrer tous les autres possibles, ou en tout cas en montrer quelques-uns. Pour dire, ben, on peut échapper aussi à ce monde-là. On n'est pas obligé de vivre dans le capitalisme. On peut avoir un post-capitalisme. On peut avoir aussi une approche technocritique et pas une approche vraiment technophile ou technophorique comme on a aujourd'hui. Où on a l'impression que c'est magnifique, que tout est beau, sans se rendre compte qu'on perd de la puissance en utilisant aussi les technologies, quoi.
Alors, pour changer le réel, la littérature ne suffit pas. Vous multipliez les collaborations avec d'autres artistes, comme avec le compositeur de musique électronique Ron, qui intègre dans ses morceaux certaines de vos prises de parole.
Si tu passes pas par des percepts, par des affects, c'est-à-dire des modes de perception, si tes modes de perception et d'attention au monde n'ont pas été modifiés, et souvent ils sont modifiés par là, alors ton comportement ne va pas changer. C'est pas le fait de savoir ou d'être informé qui te fait changer, c'est le fait que tout d'un coup ta perception a tourné.
Rhône et pas Rhône. Rhône, Nouveau Monde, extrait de l'album Room with the View, sorti en 2020. Ça fait longtemps que vous participez avec cet artiste musical.
Ah ben Erwan, je l'ai connu très tôt, il avait 19 ans, il travaillait sur un film sur la zone des dehors, donc mon premier roman, c'est comme ça qu'on s'est connu, il était au tout début de la musique. Et il a fait son premier single en fait en reprenant des sortes de mots que je me disais à moi-même quand j'écrivais La Zone dehors, et il les a pris, il les a placés sur la musique. Ça a devenu un titre qui est maintenant un peu culte. Et voilà, c'est un lien d'amitié qui dure comme ça depuis 20 ans. Et c'est un bonheur de le suivre, de le voir évoluer et de le voir qui garde sa générosité, son ouverture. C'est quelqu'un de magnifique. Ouais, je suis très content qu'il ait ce succès-là. Ouais.
Vous participez également cet été, Alain Damasio, au festival Agir pour le vivant. Vous allez inaugurer le 22 août la première soirée au théâtre antique d'Arles, dans le cadre du centre Pompidou hors les murs. Il y aura des lectures, des créations sonores, là encore. C'est toujours l'idée que l'art doit être utile, force de changement.
Ouais, c'est surtout l'idée que c'est bien d'utiliser des supports et des modes d'expression qui soient différents. La littérature, moi je trouve que c'est un art total, absolument magnifique, qui touche à tous les aspects de la sensibilité, notamment de l'intériorité. Mais j'aime beaucoup aussi les performances sur scène. Voilà, là j'ai une tournée qu'on a lancée avec Yann Péchin qui s'appelle Entrer dans la couleur, qui est autour des Furtifs, et Yann Péchin, un magnifique guitariste, qui était le guitariste de Bachung notamment. Et là, avec Vincent Desprez, on va s'éclater, je pense, aux arènes d'Arles, parce qu'on va travailler sur de la performance théâtrale, sur de la mise en musique, sur la création sonore de Floriane Pochon, qui est pareil, une artiste avec qui je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années. Et du coup, ce mélange entre création sonore, musique live, puisqu'on va, Yann Péchin va improviser en grande partie avec sa guitare, plus les lectures de textes croisées, parce que moi je vais lire Vinciane Desprez, elle va me lire, on va essayer de mélanger ça et de croiser ça avec un débat qui sera plutôt intellectuel, plus pointu. Donc on mélange des approches qui sont plus conceptuelles, plus rationnelles, avec des approches qui vont être très sensibles, très émotionnelles. Donc je trouve que il faut essayer de trouver une sorte d'alliage entre ces pratiques-là pour que les gens soient touchés par le vivant, mais de plein de façons différentes. Voilà, si on reste que sur le conceptuel, le rationnel, les gens décrochent et c'est normal. Si on reste que sur l'émotionnel aussi. Mais par contre, vraiment tisser entre les deux, je trouve métisser ça, hybrider ça, ça donne quelque chose qui va être, je crois, chouette. Ouais.
Alors ceux qui attendent avec impatience la suite des Furtifs vont devoir s'armer de patience, hein, si j'ai bien compris, parce que alors il y a tous ces projets de spectacle. Et puis alors il y a un autre projet de zone autogouvernée dans les Alpes. Vous en êtes tout de ce projet, et en quoi il va consister exactement?
Alors, on vient de démarrer. Alors c'est tout neuf, c'est tout frais.
Vous venez d'acheter le terrain, c'est ça?
Ouais, on a acheté le terrain, on a acheté le bâtiment. Donc c'est une zone magnifique. Dans les Hautes-Alpes, un lieu qui est vraiment splendide en montagne, à 1300 mètres. Et on veut essayer, je vais essayer de mettre en œuvre tout simplement ce que je décris dans mes livres, ce que j'essaye de faire entrevoir ou miroiter, notamment à la fin des Furtifs. Alors, on aime bien les sigles, on a déliré, on appelait ça une ZES, finalement, une zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée. Voilà, c'est-à-dire qu'on croise les dimensions artistiques, les dimensions politiques, vraiment, et puis les dimensions écologiques. Et donc, du coup, on essaye de faire une école des vivants, où on suit justement les traces de Baptiste Morisot et d'Estelle Zong notamment, et de Vinciane Desprez, c'est-à-dire de dire ce qui manque aujourd'hui, c'est de nourrir une culture du vivant. Cette culture du vivant, on l'a perdue. La modernité nous a coupé de la nature. C'est un des grands méfaits, en tout cas, de l'émergence de l'industrialisation. Et du coup, on essaye de retisser ces liens. Voilà, et de nourrir cette culture à la fois sur le plan justement artistique, politique et écologique. Donc vraiment sur l'axe scientifique et artistique, les deux jouent et les deux sont nécessaires, je pense.
On termine avec un exemple de conviction qui a changé le réel. À l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre, on demande ici chaque soir à nos invités, Alain Damasio, de choisir un livre. Lequel avez-vous choisi?
Et là, du coup, j'ai choisi le livre d'Estelle Zong Mengal qui s'appelle « Apprendre à voir le point de vue du vivant ». C'est un livre dont j'ai eu la chance de lire le manuscrit, de le suivre. Et j'adore ce que fait Estelle. J'avais vu Esthétique de la rencontre aussi d'elle. Et je trouve qu'elle touche un point qui est absolument décisif. C'est-à-dire, elle dit, si on doit surmonter cette crise de la sensibilité au vivant, cette coupure qu'on a maintenant avec la nature, il faut réapprendre à voir. Voilà. Et elle se sert des féministes du 18e siècle, 19e siècle pour le faire. Et elle se sert aussi des artistes peintres. Et elle nous montre comment, à travers eux, on peut retrouver cette faculté de voir, de sentir, d'écouter aussi, bien sûr, de goûter, parce que tous les sens vont être sollicités. Et j'aime beaucoup la façon dont elle le fait. Voilà, c'est-à-dire qu'elle nous dit le premier pas, c'est bien joli de dégrainer des chiffres de tonnes de CO2 consommées quand vous prenez l'avion, etc. C'est bien joli d'avoir une approche naturaliste, très scientifique et qui va en fait désenchanter notre rapport à la nature. C'est très joli aussi faire de l'art mélancolique ou en tout cas affectif ou émotionnel en utilisant la nature comme un symbole ou comme un symptôme de nos états émotionnels. Elle dit non, il faut renouer avec le vivant autrement, apprendre à voir. Et pour ça, on a besoin à la fois des savoirs scientifiques, mais aussi d'une sensibilité nouvelle. Il y a des passages magnifiques dans ce livre sur notamment ce qu'elle dit sur les primes verts. À la sortie de l'hiver, comment les primes verts captent la lumière rouge du soleil pour commencer à pousser avant tout le monde. Et voilà, il y a des passages aussi sur la Maison Charbonnière, sur le hibou grand-duc qui sont splendides, sur cet empire du silence du hibou grand-duc qui vient fondre sur sa proie. Voilà, elle nous permet de voir et de sentir beaucoup de choses qui donnent du désir du vivant, surtout. C'est ça.
Le point de vue du vivant, donc ça s'appelle aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Alain Damasio.
Merci à vous.
D'avoir participé à Un Monde Nouveau ce soir sur France Inter. Un Monde Nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathieu Volant à la programmation et la préparation de l'émission. Sans oublier Lily Cornier et Anaïs Dinarc à la technique. Clément Vuillet, on se retrouve lundi en direct du Festival de cinéma de Locarno. Après le journal, rendez-vous avec le téléphone sonne ce soir. JO, qu'est-ce qui vous inspire chez les sportifs ?